49.
36 heures après la tuerie à la préfecture de police de Paris, c'est Éric Diard, notre invité ce matin sur RTL. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, député Les Républicains et co-auteur d'un rapport sur la radicalisation dans les services publics. On va y revenir dans un instant, bien entendu, à ce point en particulier. D'abord, je voudrais savoir comment vous appréciez, vous, cette période de flottement, c'est-à-dire ces 24 heures où on est passé de jeudi soir à un assaillant sans histoire, à hier soir à une enquête axée sur un acte terroriste.
Écoutez, moi j'avais quand même les éléments, selon mes sources, me donner des choses concrètes. Que l'individu était radicalisé. On était un petit peu sur un coup de folie. Je pense que le gouvernement n'a pas voulu aller trop vite, ou alors les renseignements sont arrivés assez tardivement, et c'est pour ça que ça a donné un peu une impression de cafouillage.
Vous pensez qu'il y a eu un problème de transmission entre la préfecture de police, la place Beauvau, les renseignements ?
Le problème déjà, vous avez quand même le ministre de l'Intérieur qui vous dit ce type n'a aucun signalement, et vous apprenez au jour d'aujourd'hui qui quand même en 2015 il faisait l'apologie des attentats. Bon, il refusait de serrer la main depuis quelques semaines ou quelques jours à ses collègues de travail. Donc il avait des signes de radicalisation.
Ça veut dire que dans ces épisodes-là, on va trop vite, selon vous, en termes de communication ? C'est-à-dire, est-ce que le ministre de l'Intérieur doit parler tout de suite, si vite, sans qu'on ait tous les éléments ?
Mais il doit parler, parce que la population attend quand même une réaction du ministre de l'Intérieur. Après, tout dépend des éléments qu'on lui donne. Je trouve que de lui dire pas du tout, aucun élément, et après on apprend ces éléments, les services de renseignement ne les avaient pas, je trouve ça assez étrange.
C'est-à-dire que vous êtes sur la même longueur d'onde que Éric Ciotti, l'un des députés de votre camp, qui réclame ce matin une commission d'enquête parlementaire et qui qualifie le ministre de l'Intérieur d'incompétent ?
Moi, je ne vais pas juger le ministre de l'Intérieur, premièrement parce que je n'ai pas tous les éléments, mais par contre, moi aussi, je souhaite qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire à ce sujet, parce que, à mon avis, il y a eu des failles dans le renseignement.
Ça voudrait dire quoi ? Qu'on a voulu, à un moment en tous les cas, ou qu'on a tenté de le faire, de camoufler au maximum le fait qu'il peut y avoir au sein même de la grande maison des forces de l'ordre, donc des gens qui nous protègent, des individus radicalisés ?
Non, on ne peut pas le camoufler. Ça sert à quoi ? C'est assez dérisoire de camoufler ça pendant 24 heures, 48 heures. Maintenant, vous savez, le parquet national antiterroriste qui s'est saisi. Et à partir de là, la lumière va être faite et tous les éléments vont être mis sur la table. Donc, non, je ne crois pas. Je pense que, malheureusement, moi, ce qui m'inquiète, c'est premièrement comment une personne qui semblait, je dirais, présenter des signes de radicalisation pouvait se retrouver en corps un poste aussi sensible que les renseignements de la préfecture de Paris.
Mmh. Je disais, Éric Diard, que vous avez signé un rapport sur la question, sur la radicalisation dans les services publics. Est-ce qu'aujourd'hui on peut chiffrer le nombre de policiers qui ont, si vous me le permettez, franchi la ligne jaune ?
Enfin, moi, je donne, c'est du factuel, c'est-à-dire ce que m'ont donné. Mais au niveau des policiers, Éric Morvan, qui est le directeur général de la police nationale, nous avons à peu près 150 000 policiers. Il y en a une trentaine qui sont susceptibles d'être radicalisés. Et au niveau de la préfecture de police, 43 000 agents et 15 personnes sont surveillées pour radicalisation. Mais bien évidemment, cette personne n'était pas dans les écrans radars, parce que si cette personne était suivie pour radicalisation ou pour des contacts avec des personnes radicalisées, elle ne pourrait être à ce poste.
Et vous dites susceptible et surveillé. J'entends les auditeurs qui disent, mais alors s'ils sont surveillés, c'est qu'on a un doute. Et si on a un doute, pourquoi on les conserve à leur poste ?
Mais alors, je vais vous dire, premièrement, quand on a un doute, on ne les conserve pas à ce poste. C'est-à-dire, on les écarte des postes stratégiques, c'est-à-dire on leur enlève l'arme, on les met à des postes plus administratifs, plus subalternes. On l'a vu dans certains cas, parce qu'il faut des éléments concrets pour révoquer une personne. Quand je dis susceptible d'être radicalisé, c'est peut-être parce que votre cousin ou votre frère, quelqu'un de votre entourage avec qui vous n'adhérez peut-être pas à ces valeurs, mais a des contacts avec une mouvance islamique fondamentaliste. Voilà pourquoi vous êtes dans les écrans radars. Mais cette personne, je suis certain qu'elle n'était pas, et l'enquête dira pourquoi elle ne l'était pas.
Alors après cet épisode et cette tuerie justement de la préfecture de police de Paris, on a des syndicats de policiers, on les a entendus, qui se disent aujourd'hui choqués quand on bascule justement à une enquête terroriste. Que l'enquête bascule vers un acte djihadiste, est-ce qu'ils ferment les yeux ? Est-ce qu'ils ne veulent pas faire face à la réalité, ces syndicats de police ?
Non, non, je pense que... Écoutez, je suis à l'initiative de cette enquête. Je l'ai demandé au gouvernement, pourtant j'étais d'opposition, ils l'ont validé. Quand j'ai demandé cette enquête sur la radicalisation des services publics, qui allait bien au-delà de la police, de la gendarmerie, puisque nous avons fait le domaine du sport, la santé, les universités, les collectivités territoriales, et un grand problème, le pénitentiaire, qui est vraiment la base de la radicalisation, j'avais des policiers qui me disaient, il y a des trous dans la raquette. Et c'est ces policiers qui me disaient, pourquoi il y a des trous dans la raquette, qui m'ont donné envie de mettre en place cette mission d'information.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour avancer, pour éviter ce qu'on a vécu là, il y a 36 heures ?
Premièrement, il faut améliorer la prévention. C'est-à-dire, il y a des moyens dans tous les domaines. C'est-à-dire, il faut savoir quand même, heureusement, les attentats de 2015 ont été une vaste prise de conscience dans les services publics et ailleurs d'ailleurs. C'est-à-dire, dans les services publics, parfois, on avait tendance à mettre la poussière sous le tapis, à dire, bon, cette personne, on va nous taxer de raciste si on dit qu'il fait ceci, ça. Ils ont dit, ça peut plus durer comme ça. Donc, l'État, par rapport à cette menace, a adapté sa riposte. Plus ou moins rapidement, le problème, l'État, notamment les services régaliens, beaucoup de lois ont été faites, beaucoup d'ordonnances, mais malheureusement, vous avez un train de retard. Alors, je ne vous parle pas dans le domaine du pénitentiaire, dans le domaine des hôpitaux, dans les domaines de l'université, où c'est, à mon avis, encore plus sensible, mais au niveau policier, l'État s'adaptait, mais il y avait des failles dans le système, et notamment dans la surveillance, dans le criblage, dans le rétro-criblage, et il y a encore des individus qui ne sont pas sous surveillance.
Merci Éric Diard d'avoir partagé tout cela avec nous, de nous avoir expliqué les choses. Député Les Républicains et invité de RTL Matin ce samedi. Merci.
Merci
à vous.